au deuxième chapitre, juste après la Pentecôte, verset 42, Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par le moyen des apôtres. Tous les croyants étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui étaient sauvés. Ensuite, au chapitre 5... Chapitre 5, verset 10. Acte 5, verset 17. Alors intervint le souverain sacrificateur ainsi que ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens. Remplis de jalousie, ils mirent les mains sur les pauvres et jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison, les conduisit dehors et dit: vous dans le temple et annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. Et, l'ayant écouté, ils entrèrent vers le point du jour dont ils enseignaient. Verset 25. Mais quelqu'un vint leur annoncer: voici, les hommes que vous avez mis en prison se trouvent au temple et enseignent le peuple. Alors le commandant y alla avec les gardes et les amena, mais sans violence, car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Après les avoir amenés, ils les présentèrent devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea: nous vous avons formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Mais Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous, vous avez fait mourir le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et nous, nous sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Verset 40. Le Sanhédrin, donc le tribunal de débat, et puis verset 40, il fit revenir les apôtres, leur défendirent, après les avoir battus, de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Eux donc quittèrent le Sanhédrin en se réjouissant d'avoir été estimé digne de souffrir des outrages pour le nom. Et tous les jours, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ, dans le temple et de maison en maison. Troisième passage, c'est au chapitre 8. L'histoire de Philippe et l'eunuque, chapitre 8 au verset 26. Et un ange du Seigneur parla à Philippe: lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il est désert. Il se leva et s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme haut placé à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors et qui était venu pour adorer à Jérusalem son nom. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: approche-toi de ce char et rejoins-le. Philippe accourut et l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Verset 35. Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il fit arrêter le char et ils descendirent tous deux vers l'eau, et Philippe le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Et il continua son chemin, toujours. Et Philippe se retrouva à Gaza. Verset 36. Les deux premiers versets. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Itieu, et craignant Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement.
Donc, en relation avec ce thème, quelques questions pratiques ont été suggérées. Est-ce qu'il faut saisir les occasions d'évangéliser ou les provoquer? Alors, il y a un verset dans la fin des Colossiens qui dit au chapitre 4, verset 5, « Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Donc, est-ce qu'il faut toujours attendre l'occasion pour la saisir, ou est-ce que parfois il faut la provoquer? Comment présenter mon assemblée, mon église locale à quelqu'un qui désire connaître les choses de Dieu? Qui inviter? Quand l'inviter? Comment l'inviter peut-être aussi? Quel projet d'évangélisation pour notre assemblée locale? Distribution d'offres gratuites de calendrier, de Nouveau Testament Gédéon, Marc, de chants dans les maisons de retraite, une réunion d'évangélisation comme on faisait au 19e siècle, où on invite les gens du quartier, est-ce que ça marcherait encore? Quel projet d'évangélisation pour notre assemblée locale? Est-ce que il faudrait peut-être aussi cet après-midi qu'on réfléchisse sur des projets concrets. Donc les questions ne sont pas limitatives. Je rajoute à cette lecture une diapo qui a été envoyée par Pierre-Henri hier soir, décidément. Pierre-Henri, les oreilles doivent lui teinter. Alors, Pierre-Henri proposait ceci, un message adapté à l'auditoire. Il dit que dans le livre des Actes, il a remarqué que le message de l'Évangile s'appuie sur des tremplins adaptés à l'auditoire. À Jérusalem, il va y avoir des miracles, en acte 3. À Thessalonique, les Écritures vont être ouvertes. À Athènes, la philosophie. Les philosophes sont là, sont présents, et Paul discourt. Et avec les autorités, des récits sont faits. Paul raconte son histoire devant les autorités. Et il pose cette question, quel tremplin pouvons-nous utiliser aujourd'hui en France dans l'esprit de 1 Corinthiens 9, versets 19 à 20, que je lis maintenant. Car étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous afin de gagner le plus de gens. Et pour les juifs, je suis devenu comme juif afin de gagner les juifs. Pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans la loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, je suis justement soumis à Christ afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faible. Afin de gagner les faibles, je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière, j'en sauve quelques-uns. Et je fais toute chose à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant à lui. Donc je répète cette question, quel tremplin adapté à l'auditoire pouvons-nous utiliser aujourd'hui?
Je peux me permettre une remarque. Ces textes de 1 Corinthiens donc nous ramènent à Paul. Il faut savoir que Paul était un personnage hors norme. Non seulement par les dons qu'il avait reçus de la part du Seigneur, mais de par son identité. Il était juif, hébreu d'entre les hébreux. Il était originaire de Tarse, citoyen de cette ville. Donc être citoyen d'une ville dans ce monde hellénistique, c'était quelque chose de très important, qui lui ouvrait le monde, bien sûr, le monde païen de cette époque. Et il était citoyen romain. Il pouvait donc faire feu de tout bois, en toutes circonstances, il avait des arguments, il avait bien sûr, de par sa formation, de par son parcours aussi, matière à répondre pratiquement dans toutes circonstances, en toutes circonstances. J'ai un ami, Gédéon, qui, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, qui est un, il avait fait une longue carrière dans l'éducation nationale, et c'était un athée militant. Tout à l'heure on avait parlé de l'athéisme, et lui c'était un athée militant, il militait dans des ligues d'action laïque. Et il a été touché par le Seigneur d'une façon extraordinaire. Et quand il fait ses distributions, et que les gens lui disent, oh, mais vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis athée. Il a tout de suite le mot pour répondre. Il dit, mais attendez, moi, j'étais athée, hein, donc on va trouver un terrain d'entente. Je vais vous dire, moi, j'étais athée, non seulement athée, mais j'ai jeté des bribes, des bibles, j'ai brûlé des bibles. Et maintenant, je peux vous apporter quelque chose de mon expérience. Alors, pour nous, évidemment, c'est un peu différent, dans la mesure où nous n'avons pas... Paul avait persécuté l'Assemblée aussi, ne l'oublions pas. Et quoi qu'il se soit passé, et la restauration qu'il a pu avoir, il lui en est toujours resté quelque chose. Il avait persécuté l'Assemblée. Le problème pour nous, dans le monde dans lequel nous vivons, et la formation que nous avons, c'est que la plupart d'entre nous, je pense du moins, nous sommes des héritiers. En ce sens que nous avons été élevés, comme cela a été rappelé à propos de Daniel, dans l'enseignement des Écritures, le respect des Écritures. Et il y a une différence entre un héritier et celui qui est un converti. Bien sûr que nous aussi, nous avons été convertis, bien sûr. Mais celui qui est passé des ténèbres à la lumière, qui a été arrêté, comme Paul l'a été sur le chemin de Damas, est à même de donner un témoignage extraordinaire, parce qu'il va dire à son voisin de palier, ben, vous m'avez connu, j'étais ce que j'étais, vous m'avez vu, j'étais violent, j'étais batteur, j'étais buveur. Je n'ai pas à vous faire un long exposé, le Seigneur a travaillé, et voyez ce que je suis à présent, par grâce. Alors nous n'avons pas ce type de discours, nous n'avons pas ce témoignage qu'un Paul, ou qui avait persécuté l'Assemblée, qui s'était montré violent, ou qu'un athée, mais vraiment tiré du feu et amené au Seigneur. Je pense que c'est pas nécessairement non plus un handicap, en ce sens que... Ce passé tumultueux, bon, il en reste toujours quelque chose. Et cette même personne qui était un athée militant, et moi je lui disais, ben voilà, je n'ai pas de témoignage à donner. Hein, tout enfant, je priais le Seigneur, j'avais 7 ans, je priais le Seigneur et le Seigneur me répondait. Il m'a dit, mais ne regrette rien, ne regrette surtout pas, parce que moi j'ai perdu beaucoup de temps. Et maintenant je vais essayer de racheter le temps, rattraper le temps. Alors, bon, Paul vivait dans un monde qui n'était pas facile. Il faut savoir que le christianisme, et les quelques passages que nous avons lus dans les Actes le montrent à l'évidence, le christianisme s'est développé dans un contexte hostile, dans un contexte de persécution. Ces persécutions vont durer fort longtemps, jusqu'au début du IIIe siècle, afin que, on peut dire qu'il y a eu autant de périodes de persécution que de périodes de calme relatif, mais voilà. Et c'est dans ce temps, dans cette période difficile, que le christianisme s'est développé. C'est un encouragement aussi pour nous, dans ce monde de plus en plus sécularisé, laïcisé, dont on a parlé tout à l'heure, de savoir qu'il y a quand même une soif. Il y a une demande. On se rend compte que de plus en plus que dans cette quête du bonheur, il y a beaucoup de paradis artificiels, hélas. Et c'est une opportunité, je pense, pour nous, dans le monde dans lequel nous vivons, pour être des témoins et répondre à cette attente. Et même, on pourrait parfois parler d'une véritable angoisse métaphysique. De quoi demain sera fait? Les gens s'inquiètent. La crise que nous venons de traverser, nous ne sommes pas encore sortis, a fait que les gens se posent beaucoup de questions. Et c'est, je pense, une bonne opportunité pour nous, pour annoncer que nos valeurs ne sont pas celles de Wall Street, n'est-ce pas ? Que nous avons bien sûr des choses beaucoup plus solides et beaucoup plus valables.
Juste dans le courant de pensée que nous donne Gérard, je pensais à ce que Paul, qui avait connu une conversion extraordinaire, disait à Timothée, qui connaissait, lui, les saintes lettres depuis son enfance, par sa mère, par sa grand-mère. Et le chapitre premier de la seconde épître à Timothée est un formidable encouragement pour nous, parce que nous sommes peut-être un petit peu dans le même cas que Timothée. Alors, nous pouvons nous trouver bien des raisons à ne pas l'apôtre Paul lui dit clairement, je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi. Oui, nous avons reçu cette mission. Alors peut-être pas le même don que Timothée, mais nous avons à être des évangélistes. Il lui rappelle aussi que l'Esprit de Dieu est en chacun de nous, comme un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Et puis pour rejoindre ce qui nous a occupé ce matin, n'aie donc pas honte. Je crois que c'est un encouragement formidable à chacun de nous qui sommes nés, ou pour ceux qui sont nés et qui connaissent, grâce à Dieu, la parole de leur plus tendre enfance, à nous réveiller.
Peut-être que quelques-uns connaissent l'hebdomadaire catholique qui s'appelle La Vie, commentant justement la conférence épiscopale dont parlait Gérard tout à l'heure, l'éditorialiste écrit juste quelques lignes. Au quotidien, les pratiques sociales s'affranchissent en effet toujours plus radicalement et toujours plus calmement du modèle, il dit catholique mais je dis chrétien. C'est une résistance molle, invisible comme l'air, l'impalpable air du temps. Pour nombre de nos concitoyens, la question de Dieu est plus que résolue. Tout semble se passer en eux comme si elle n'avait jamais existé. Et puis je lis surtout le paragraphe qui suit parce que c'est en relation avec le témoignage du début des actes. Un pas de plus, et l'on découvre cependant que l'indifférence n'est parfois qu'une fallacieuse apparence, l'expression d'une volonté d'absolu qui n'a pas rencontré les mots pour éclore. Parfois, frappant aux portes des églises, les quêteurs de vérité les ont trouvées closes sur des condamnations abruptes, un vocabulaire incompréhensible, des obsessions absurdes. Cherchant l'espérance, ils auraient interrogé les croyants qu'ils croisaient, s'ils ne les avaient trouvés barricadés dans leur peur, engoncés dans leur certitude ou intimidés par leur propre baptême. Ils n'ont pas entendu chez eux un franc discours de liberté, de vérité et de vie. Ils n'ont pas vu non plus Dieu, mais l'Église. La foi alors n'est pas pour eux une impossibilité, mais un renoncement parfois douloureux à être soi. Je voudrais aussi citer cette phrase du philosophe Nietzsche qui dit, excusez-moi encore, il dit, je croirais bien en leur sauveur s'ils avaient des têtes de sauvés.
Alors donc ce que nous avons à la fin du chapitre 2 du livre des actes, c'est cette fois un comportement collectif qui est une somme de convictions personnelles. Il y a ici toute une manifestation de vie, quelque chose a été reçu, quelque chose a une force de vérité dans le cœur, ce qui a été donné de Dieu par les apôtres. Il y a la mémoire d'une œuvre accomplie, d'une victoire remportée, et la conscience de la nécessité d'œuvrer ensemble pour maintenir ces choses. D'où une persévérance collective, tenir les choses reçues que Dieu a données, se souvenir ensemble de ce qui est la base de cette réalité et la puissance d'une manifestation qui correspond à la victoire de la croix, et puis se maintenir dans cette réalité par une communion cultivée avec Dieu. C'est ce que nous voyons dans la communion des apôtres, la fraction du pain et les prières. Et cela allait de pair avec la crainte. Que nous entendons bien ceci. Aujourd'hui, la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné, persévérer, y tenir, fouiller la parole, comme nous le faisons maintenant, comme c'est fait dans les églises qui sont vivantes, hein, les assemblées locales vivantes, hein, et puis vivre habituellement le souvenir auquel nous sommes invités, comme nous le trouvons dans la première épître aux Corinthiens ensuite, hein, ce souvenir du Seigneur, et puis prier ensemble. Si on lit le début du livre des Actes, on voit que c'est comme ça que les choses commencent. Hein. Ils sont là, verset 14 du chapitre 1er, persévérant d'un commun accord dans la prière. Voilà quelque chose d'indispensable pour une vie collective, pour une force collective, pour une communion et pour une manifestation puissante de témoignage. Puis il y a la crainte, crainte de déplaire à Dieu, le désir intense de vivre ce qui correspond à la pensée de Dieu et le fait de se tenir là devant lui, une vie de la foi. On vit quelque chose, si on a un passage dans la parole de Dieu qui nous assoit bien dans le fait que c'est ce que Dieu attend, on le vit profondément. Si on a quelque chose à faire, eh bien, on hésite un petit peu, mais on guette, on est attentif à la voix de Dieu. Et quand Dieu donne des jalons, ça va, on s'inscrit et on continue. Voilà. Et toute âme avait de la crainte. Ça, c'est le côté individuel. Et puis, il y a une manifestation qui correspond à ce temps-là, comme on le trouve à la fin de l'Évangile selon Marc. À la fin de l'Évangile selon Marc, nous avons directement cette expression, prêchèrent partout le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà, c'était le moment où les choses devaient être établies. Le Seigneur a choisi des disciples, ils sont là, ils répandent ce qu'ils ont à répandre, le Seigneur coopère avec eux, des prodiges, des miracles se font par les apôtres. Ensuite, il y a un partage. Ils sont tous en un même lieu, c'est-à-dire qu'ils viennent pour être ensemble. Les choses n'ont pas duré, il y a eu dispersion, mais il y a eu dispersion aussi parce qu'il y avait nécessité de répandre l'Évangile, et on trouve ceci plus loin dans le livre des Actes, mais c'est en même temps quelque chose que la grâce de Dieu produit. Mais là, au commencement, ils éprouvent le besoin de se soutenir mutuellement, ils éprouvent le besoin d'être ensemble. Est-ce que dans la vie des assemblées ou des églises locales, on éprouve vraiment le besoin d'être ensemble? Est-ce qu'on a réalisé que le fait d'être ensemble, de partager véritablement, de manifester que nous avons des liens forts, une même pensée dans le Seigneur, un même désir, cultivé et enrichi par une communion avec le Seigneur et un véritable partage? Alors, ils sont là, en un même lieu, et ils ont même toutes choses communes. Bon, voilà, c'est les temps forts du moment, les choses n'ont pas duré, la fin du chapitre 4 et le chapitre 5 sont là, Satan est intervenu, on voit le comportement d'Ananias et Saphira, on voit le gouvernement de Dieu qui agit, mais la pensée, c'est qu'ils étaient là, ils mettaient les choses en commun, ils voulaient ensemble produire quelque chose, il n'était pas question que les uns soient gênés parce qu'ils avaient moins de possibilités matérielles que d'autres, ou moins de ressources pour la vie courante que d'autres, donc ils mettaient tous en commun de manière à ce que personne ne manque de rien, c'est un sujet qui est développé dans la parole de Dieu et qui trouve son application au jour d'aujourd'hui. Et puis, ils ont encore une persévérance au verset 46, c'est un commun accord, quelque chose de très beau qui est développé d'une autre manière dans le courant du chapitre 4, qui produit de la puissance et une hardiesse immédiate. On a bien ici une ressource pour rendre ensemble un témoignage. Ils rompent le pain habituellement, ils louent Dieu en simplicité de cœur, ils prennent leur nourriture, et la faveur de tout le peuple est là, quelque chose est produit parmi le peuple de Dieu qui résulte justement de ce lien avec Dieu, de cet engagement personnel et de ce partage. Résultat, le Seigneur ajoute à tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Très directement, Dieu, par son esprit, nous donne ici ce que peut être un témoignage collectif. La grande chose, c'est le cœur personnel, la communion, le véritable partage, pas pour discuter, pour comparer, non, non, pour être près du Seigneur, pour être près de la parole de Dieu, pour y coller le mieux possible. Et alors, dans cette réalité vivante, le Seigneur, qui regarde d'en haut, vient ajouter à l'assemblée une puissance de témoignage exceptionnelle parce que les pensées de Dieu sont recherchées et vécues et parce que la communion est forte. Et là, on regarde de l'extérieur, on voit une assemblée qui vit, pas une intention sectaire d'embrigader des gens, non, mais le désir du bien. Alors, on retrouve ce qu'on a vu ce matin, hein. D'abord une réalité de cœur, des choses retenues dans le cœur, pour Dieu, pour le Seigneur. Et puis progressivement les choses se construisent. Même chose ici, mais un partage avec une recherche de communion. Et puis les choses s'affirment. Et Dieu vient coiffer les choses en intervenant pour produire un témoignage et des résultats. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. On se pose des questions, hein. J'entends en passant ici et là, pas seulement dans notre pays d'ailleurs, ceci, mais on trouve peu de motivation. Les bancs de certaines assemblées se vident. Bon, c'est vrai. C'est vrai, oui, on fait un constat ici et là, c'est pas vrai partout, mais c'est vrai que c'est une réalité un petit peu trop répandue. Bien, on peut discuter de ceci, hein, on peut avoir une opinion, on peut chercher des motifs. Hein. Bon, j'avoue que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ces motifs et ces discussions. J'entends ici quelque chose que Dieu me dit, et je pense que si on vit les choses comme ceci, eh bien, il y aura peut-être tout simplement une intervention du Seigneur pour produire quelque chose qu'on estime inespéré. Et un vrai sujet de réflexion, la fin de ce chapitre 2.
Peut-être qu'il y a deux ou trois choses que je voudrais noter là dans ce paragraphe. C'est la première, c'est le... Il y a quelque chose de, à la fois de complémentaire et de cohérent dans l'attitude. On n'est pas tout est lié, tout est lié, tout ce qui est spirituel est lié. On a peut-être l'habitude de cloisonner la doctrine, la communion des apôtres, la fraction du pain, les prières. Mais là, on voit ceux qui entrent voient la vie spirituelle de ces chrétiens-là dans son ensemble. Il voit que ces gens-là peuvent, le christianisme, la vie chrétienne, c'est à la fois louer et adorer. Et puis il voit aussi que la vie chrétienne, c'est pas seulement une spiritualité, c'est aussi quelque chose qui se lie à la vie matérielle, qui trouve sa conséquence dans la vie matérielle. Et les deux sont liés. Peut-être que nous avons beaucoup mis l'accent. Et c'est normal, évidemment, puisque la relation avec Dieu est une relation spirituelle. Mais ici, eh bien, on voit qu'il persévérait dans tout le domaine spirituel, et en même temps, il y a comme le même soin, en même temps, dans le même lieu, pour les soins matériels, pour l'attention aux besoins matériels. Et aujourd'hui, voilà, on le disait samedi lors d'une rencontre, on découvre de plus en plus une immense misère matérielle autour de nous et on ne sait pas comment répondre. Et on se rend bien compte que comment toucher des personnes, un missionnaire disait un jour, si vous ne pouvez pas annoncer l'évangile à quelqu'un qui a faim. Et je crois que là il y a quelque chose qu'il nous faut en tout cas rencontrer, en tout cas nous arrêter pour le considérer. On dit c'est le début des actes, il n'y a plus la puissance. Mais s'il n'y a plus la puissance pour ces choses-là, il n'y a plus la puissance pour ce qui est spirituel et qui est juste au début du paragraphe. Et puis, une autre chose, c'est le lieu. Alors, il n'y a pas de réponse, mais le lieu est important. Et où sont nos églises? Voilà, à Bordeaux, on se met à réfléchir pour une localisation du rassemblement. Ben, où faut-il implanter un local de rassemblement? Et là, ils étaient dans un lieu qui était accessible, visible à tous. Et puis, il y a autre chose à la fin du paragraphe, c'est la spontanéité. La simplicité de cœur, louant Dieu, ayant la faveur de tout le peuple. Voilà. Il y a une spontanéité qui est liée à la présence de la vie de Dieu et qui se manifeste de cette manière-là, ayant la faveur de tout le peuple. S'ils avaient la faveur de tout le peuple, c'est que le peuple comprenait tout ce qui se faisait là. Et puis un dernier mot sur la dernière ligne, c'est que nous n'avons pas à avoir le souci du résultat. Le résultat appartient à Dieu. Le résultat, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu fera, il fera germer, il fera le travail lui-même. Il le fait de manière extraordinaire, souvent sous nos yeux, à côté de nous. Mais ce qui nous importe, ce dont on est responsable, c'est ce qui précède.
Oui, mais je me demande si ce que je vais dire n'est pas du tout en contradiction avec ce qu'on vient d'entendre. Ce qu'on voit ici, c'est un moment de démarrage, de réveil. Et bon, il y a un rayonnement extraordinaire. Et c'est vrai que les gens viennent, découvrent, c'est quelque chose de nouveau et on a envie de savoir. Et on découvre ici, en quelque sorte, la préparation à un accueil pour les personnes qui, justement, n'ont pas ça. Et qui cherche. Mais notre problème, c'est peut-être plus ça aujourd'hui, puisque le sujet, c'était évangéliser au 21e siècle. Les gens ne viennent pas dans nos salles, ils ne viennent pas. Alors, si on est simplement bien et même très au point dans la salle, eh bien, le fossé avec ceux qui ne viennent pas est toujours le fossé. Et finalement, rien ne va se passer entre cet ensemble de personnes qui vivent une relation avec Dieu, qui et puis ceux qui sont là-bas et dont la Bible dit ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, ils sont sans force, ils sont morts. C'est pas des morts, c'est pas des aveugles qui vont découvrir le lieu où on se trouve. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est essentiel, parce que s'il n'y a pas une atmosphère dans les églises chrétiennes, une atmosphère de paisible, de vie et d'amour pour les autres, eh bien si les personnes viennent, elles ne seront pas accueillies, elles repartiront en courant, c'est clair. On sera en quelque sorte comme des chrétiens porc-épique. Hein, s'approche, clac, on repart, évidemment, le légalisme, etc., tout un tas de choses. Donc la question est comment faire? Quelle est la solution pour aller vers? Et d'ailleurs, le début du livre des Actes, et qu'est-ce que dit Jésus? Vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans le monde entier, partout. Il faut partir. C'est centrifuge, le christianisme, l'évangile. C'est pas centripète. Venez vers nous et vous allez voir. Non, il faut aller vers. Mais ça demande de l'amour. Et je crois que c'est une des premières choses. Et ça, c'est aller vers, manifester de l'affection, de l'amitié envers des personnes. Et ça prend du temps. Et ça, c'est pour toucher le cœur d'abord. Le cœur est touché. À ce moment-là, on va pouvoir aller dans la deuxième étape. Et la deuxième étape, parce que c'est tout un processus, la conversion. Et quelquefois, extraordinaire, on est au bout du processus et tout d'un coup une conversion extraordinaire. Mais voilà, Dieu a travaillé. Il y a eu, pour certains, ça peut être plus rapide, mais il y a quand même eu toute une période de recherche et des étapes, des rencontres, etc. Et puis c'est voilà. Et est-ce que d'abord aimer quelqu'un, c'est de l'accompagner pour qu'il fasse un pas de plus dans ce processus qui va l'amener à découvrir ce que nous avons découvert avant lui, hein, c'est cette relation avec Jésus. Alors voilà, allez. Et la deuxième étape, c'est donc semer, c'est-à-dire toucher l'intelligence, c'est-à-dire que je vais avoir, et par ma vie, et par ce que je vais dire, un message compréhensible. Et le grand problème que nous avons, alors on parlait de deux catégories, des personnes qui se convertissent dans le sens qui sont passées des ténèbres à la lumière, et puis moi je fais partie de l'autre catégorie, de ceux qui sont tombés dedans à la naissance. Mais évidemment il y a une conversion à un moment donné. Mais je ne sais pas comprendre moi quelqu'un qui vit une vie que je n'ai jamais connue. Alors comment faire pour justement s'approcher de personnes et se faire comprendre, se faire à la personne de telle manière à ce que je vais pouvoir vivre ou dire va être simplement compris. Parce que pour venir à Jésus, il faut aussi comprendre, il y a l'intelligence qui doit être mise en évidence. Et après, pouvoir aider à prendre une décision. C'est pas moi qui dis, tu dois décider pour... Non mais aider à un moment donné, parce que s'il n'y a pas une décision qui est prise, qui fait appel à la volonté de la personne, eh bien on n'ira pas prendre la main, prendre en quelque sorte, prendre la main que Dieu nous tend, que Jésus nous tend. Alors voilà tout un tas de choses, mais au départ, c'est vraiment aimer. Il est dit aimer son prochain, c'est une parole hein, qui est de la Bible. Mais aimer, ça veut dire passer du temps. Voilà, du temps avec une personne. Et à ce moment-là, si l'atmosphère que nous découvrons dans ce chapitre 2 est une bonne atmosphère, alors, on pourra lui dire, voilà, viens et vois. Hein, et puis viens, et puis on va voilà, et découvrir une nouvelle atmosphère. De pouvoir dire qu'en 21e siècle, eh bien, des personnes qui s'aiment, ben ça existe, même s'ils sont complètement différents, de couleurs différentes, ce n'est plus un problème, puisqu'on a une personne qui nous a fait une famille autour de lui. Mais c'est donc toute cette question-là qui est devant nous. Oui, s'il n'y a pas cette bonne atmosphère décrite, eh bien, on ne pourra pas amener la personne donc, dans un lieu où elle pourra continuer à grandir, parce que c'est nécessaire, on ne peut pas vivre tout seul comme chrétien dans ce monde. Ce n'est pas la pensée de Dieu, en tout cas.
C'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu nouveau à cause de l'évolution de la société. Ce qui pouvait être vécu il y a un certain temps par des réunions dites d'évangélisation, hein, se présente aujourd'hui d'une manière différente. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être vécu ponctuellement. Mais on se rend compte aujourd'hui que dans une société pleine d'indifférence et puis de recherches bizarres, confuses, comme l'a souligné Gérard tout à l'heure, eh bien, il faut aller à la pêche d'une manière personnelle, rencontrer les âmes sur le plan personnel. Sans doute faut-il commencer dans notre vie de tous les jours à s'intéresser aux personnes qui nous entourent, guetter les personnes qui ont des attentes intérieures, une peine non exprimée, proposer de l'aide, et comme le faisait le Seigneur, comme le faisaient les apôtres, gagner la confiance pour pouvoir, comme on l'a lu tout à l'heure en Colossiens 4, lorsque l'occasion se présente, saisir l'occasion. Là, c'est une habitude à prendre. On se trouve avec des personnes et on guette les attentes, on exprime de la sympathie. Viendra un jour, il y avait ce matin un couple de personnes là, qui ne pouvait pas être là cet après-midi, mais qui est venu, très intéressé toute la matinée, qui a exprimé d'ailleurs qu'ils avaient beaucoup apprécié. Et ce couple vient de subir une circonstance extrêmement difficile, hein, une répétition de choses vécues il y a quelques années, mais l'intensité telle ici que les deux pleuraient, c'était impossible. Voilà. Seulement, quand on a gagné la confiance et le cœur, les personnes viennent, elles s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, et qu'il y a déjà quelques sympathies, et surtout une sympathie chrétienne, avec une vraie résonance spirituelle, on peut dire à ces personnes, eh bien, c'est quelque chose de difficile, vous allez venir. Nous allons nous mettre à genoux, sauf un, il ne peut pas se mettre à genoux à cause de ses problèmes de jambes, j'ai dit, il restera assis. Mais vous allez venir, on va se mettre à genoux, on va en parler au Seigneur. Et puis après, on va voir. Quelque chose va se produire parce que, à un cas extrême comme le vôtre, il y a une réponse divine. Et il est bon qu'il y ait ce travail individuel, que les choses soient traduites aussi pour qu'il y ait une implication locale, une persévérance habituelle dans la prière pour ces choses-là. Donc il faut en parler, ça fait partie de la vie de l'Assemblée. Je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ça peut-être nous aider à réaliser un certain nombre de choses. Je répète, une sympathie vraie, dans cet amour exprimé tout à l'heure. Nous aimons les personnes qui nous entourent, nous désirons qu'elles soient sauvées, qu'elles soient consolées, qu'elles soient encouragées, qu'elles soient plus près du Seigneur, qu'elles aient envie d'un bonheur plus intense avec lui, et qu'elles découvrent les ressources de Dieu. Donc on gagne la sympathie, on gagne la confiance, et le Seigneur donne le moment, l'échange commence, ensuite on peut aller plus loin.
Alors, je voudrais simplement faire quelques remarques sur le paragraphe qui a été lu à la fin du chapitre 2. Et je pense aussi à ce montage que m'a montré Pierre-Henri, décidément, on l'évoque souvent, sur ces églises qu'il a pu visiter en Kabylie, en particulier à Tizi Ouzou, dans un milieu hostile, et pas très facile, hein, braver les autorités, aller dans un lieu qui change parfois d'adresse, c'est quelque chose qui engage. Et je regardais ces gens qui chantaient, qui priaient, qui prophétisaient, entre guillemets. Je me disais, mais quelle vie! C'est extraordinaire! Comment dans nos milieux, nous lisons par exemple versets 42 et 43, nous disons, ils persévèrent dans la doctrine. Donc, il y a des réunions d'enseignement. Ensuite, la communion des apôtres, fraction du pain. Donc, il y a aussi des réunions où l'on va célébrer la scène, la sainte scène. Après, prière. Donc, il y a des réunions de prière. Vous voyez, on formalise. Mais dans ce que j'ai vu en Kabylie, croyez-moi, j'aurais eu beaucoup de mal à dire, mais est-ce que c'était la fraction du pain? Est-ce que c'était une réunion de prière? Est-ce que c'était une réunion... Il y avait quelque chose à la fois de spontané, de vivant, de bouillonnant même, qui montrait que vraiment, là, il y avait la vie. Et non pas nous, avec nos esprits cartésiens, voulant voir différents types de réunions, et puis surtout, il ne faut pas mélanger les genres, etc. Alors, ce que l'on retient, c'est que, encore une fois, dans un contexte difficile, d'adversité, les gens sont motivés. Et puis, il me disait, Pierre-Henri, donc, que ça crée une émulation. Mais qui sont ces gens pour aller se réunir comme ça, risquant d'avoir des ennuis avec les autorités? Quelle motivation ils doivent avoir? Et quel amour entre eux? Et quelle solidarité? Et puis, il y en avait toujours un dehors qui surveillait s'il n'y avait pas quelqu'un de l'autorité ou des frères musulmans, etc. Donc, ce sentiment à la fois de solidarité et ce sentiment que Dieu a la main quand même sur cette assemblée et que rien ne peut nous arriver. Alors, ça, je pense que c'est une belle image de l'Église primitive, et je pense aussi, on va faire de l'autocritique, mais nous qui voulons toujours revenir aux modèles initiaux, à cette Église primitive, dans nos assemblées, je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein, ne serait-ce que l'accueil. En général, on n'accueille pas les gens. Hein, tu faisais allusion à cet aspect peut-être des choses. On va prendre sa place, tout simplement, dans son banc, et puis on a une mine, si possible, spirituelle, en attendant que le service commence. Mais non, il y a des églises évangéliques où quand vous vous présentez, quelqu'un vient à votre rencontre et vous dit « Ah, quel bonheur, Dieu vous a envoyé, soyez bénis, etc. » Et des paroles à la fois chaleureuses, sympathiques, et qui créent précisément cette... on n'a pas recherché l'ambiance, hein, on ne va pas non plus créer une ambiance artificielle, mais c'est parfois des petites choses dans nos églises, dans nos assemblées, qui sont parfois simples, comme cet accueil, cet encouragement, et qui peuvent apporter des résultats.
Bon, ça commence à venir un petit peu. Ellie se souvient, moi je l'ai vu en Colombie, à Chinchina en tout cas, hein, où au moment où les gens peuvent entrer, c'est une porte comme une porte de garage d'ailleurs, hein, grande ouverte, et puis il y a plusieurs personnes qui sont là, je l'ai vu à plusieurs endroits sur les photos, donc tu l'as vu sans doute où tu es allé aussi, hein, et puis les personnes entrent et on les accueille, on parle avec elles, celles qui sont déjà venues, bon, on dit quelques mots, et puis d'autres, on s'approche, on échange, bon, peut-être on a quelque chose à apprendre là. Il y a peut-être dans le point qui a été retenu ensuite, dans le chapitre 5, une instruction intéressante à prendre au passage. Nous savons bien que dans les assemblées, l'église locale, Il y en a qui portent des charges habituellement et d'autres moins. Et Satan voudrait bien justement que les gens soient un peu perdus. Alors il peut intervenir en agissant pour que les responsables n'aient plus la possibilité d'intervenir comme ils le faisaient habituellement. On trouve ici, au verset 17, cette jalousie, on met les mains sur les apôtres, on les jette dans la prison publique, voilà, ceux-ci au moins, ils n'interviendront plus, on aura la paix pendant quelque temps. Bon, et les autres alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas le seul passage où on pourrait tirer quelque chose là-dessus. Bon, on écoute, ça veut dire que dans son assemblée locale, on a une implication personnelle. On l'a trouvée à la fin du chapitre 2. Il faut une implication personnelle. Et il faut bien se dire que si ceux qui habituellement interviennent ont des problèmes, il faut une relève. Mais ça s'improvise pas du jour au lendemain. Il faut s'y préparer. Et on s'y prépare d'une manière active, intérieurement, en regardant ce qui se passe, en confrontant avec la parole, en se disant, et si demain, c'est moi, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, le Seigneur lui-même va intervenir, et ici, il a quelque chose à faire vivre avec les apôtres. Alors, il intervient, l'ange du Seigneur vient là, et ils sont rendus libres, et ils sont invités à annoncer au peuple les paroles de la vie. Ils entrent, ils remplissent leurs fonctions. Les autorités interviennent, surprise, on va les chercher où on les avait mis, et on pensait qu'ils étaient soigneusement gardés, ils ne sont plus là. Bon, c'est pas le seul passage dans le livre des Actes où on trouve ceci un petit peu plus loin. On trouve la même chose avec une intervention collective utile. Voilà, on arrive, et puis on veut imposer quelque chose. Verset 28, nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom. Voilà, une pression pour qu'on ne parle pas du Seigneur Jésus. Quelle est la référence? La parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu, ici nous avons un verset clé, au verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et Dieu intervient, le Seigneur soutient les siens, et l'amour pour les âmes, et en particulier ici pour Israël, parce qu'il y a ce travail d'abord parmi le peuple, se manifeste, et puis l'Esprit Saint est là pour aider, et pour donner une autorité et des résultats. Et à la fin du chapitre, on remarque que les souffrances de ceux qui ont enduré ces choses sont reçues non pas comme quelque chose qui les rend vulnérables, amoindris, mais comme quelque chose qui les rend extrêmement heureux intérieurement. Le Seigneur a souffert. Ils ont souffert pour lui, et c'est quelque chose qui leur fait du bien. Je peux vous dire que si vous vous engagez à quelque niveau que ce soit pour le Seigneur, si vous souffrez des incompréhensions, le résultat, c'est que le Seigneur soutient, et qu'après, le souvenir qui vous reste, c'est ce bien intérieur d'une communion accrue avec le Seigneur, et une puissance de témoignage d'une autre mesure.
Avec le chapitre 2, on a vu la beauté d'un témoignage, d'une qualité de vie collective qui a mené des conversions. Avec ce chapitre 5, c'est pas du tout la même chose. Ça commence avec une difficulté, il y a quand même 2 décès dans l'église locale. Mais pourquoi? Parce qu'on a menti à Dieu. Et c'est des versets qu'on n'a pas lus au début du chapitre, mais je lis quand même la conclusion au verset 14. des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur. Et puis, la deuxième histoire, alors celle qui nous a été lue, c'est quand même les frères les plus actifs qui se retrouvent en prison. C'est quand même pas facile à vivre. Je pense qu'aucun de nous n'a connu ça. Ça permettrait aux plus jeunes de prendre un peu plus d'action, déjà. Mais ce que ça a permis ici, c'est qu'il y ait un témoignage devant les autorités, et c'est que la foi soit fortifiée. Alors si je refais cette lecture du chapitre 5, c'est pour dire que le bon accueil, par la qualité intérieure, c'est fondamental, c'est parfaitement recherché. Mais si quelquefois nous sommes secoués par des choses beaucoup plus difficiles, et loin d'une harmonieuse paix, mais même au travers de cela, quand les âmes sont attachées au Seigneur, quand il y a de la vérité devant Dieu, Dieu continue à donner des fruits.
Adaptons-le dans le passage d'un Corinthien, adapter le message à son auditoire est une chose, et je pense que c'est une bonne chose, mais modifier le message dans la perspective d'être mieux entendu par les autres, ce n'est sûrement pas une bonne chose. Et je pense que dans nos jours, dans notre période, pardon, où tout est, il faut relativiser, n'est-ce pas, il faut être tolérant, il ne faut plus parler de péché, il ne faut plus parler de repentance, il faut trouver des mots beaucoup plus accommodants, on le retrouve même dans certaines traductions bibliques. Je pense qu'il y a là un réel danger. On voit Pierre qui annonce le message, les Sadducéens vont le mettre en prison, il a payé le prix, et il n'a pas cherché, lui, à s'adapter en cette circonstance. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et quand on lit Paul, eh bien, on voit que aussi dans les actes, à plusieurs reprises, ses paroles et la sincérité et l'authenticité de ses paroles lui ont valu beaucoup d'ennuis. Donc, si nous avons, bien sûr, à nous adapter à l'auditoire, je pense que nous avons tous des efforts à faire, surtout face à la jeunesse, que ce soit dans les chants, dans les musiques, etc., le message, lui, doit rester authentique. Et ça gêne les gens. Il faut savoir que nos propos dérangent. Et une fois, j'ai eu l'occasion, après une distribution, d'avoir un article dans la presse, locale, c'était la distribution qui dérange. Distribuer des évangiles, c'est évident que ça dérangeait. Et l'article était assez sévère à ce sujet-là, en disant, oui, mais on n'a pas... Ah, bon, Victor Hugo a répondu à cet argument, il a dit, une Bible par maison. Donc j'ai répondu à cet éditorialiste dans un article dans ce sens-là. Mais nos propos vont déranger. Et il faut savoir que... surtout dans le monde actuel qui est de plus en plus porté sur cette tolérance qui accepte tout et n'importe quoi. Mais si vous allez voir un médecin et que vous êtes atteint d'un cancer grave et que le médecin va relativiser en disant « Écoutez, vous allez venir me voir dans 6 mois ou dans 1 an, on va voir, on ne va pas vous affoler, on ne va pas vous traumatiser », sûrement ce n'est pas un bon médecin. Il n'agit pas non plus professionnellement et en amour. Or, le plus grave de tous les cancers, c'est le péché, bien sûr, nous le savons. Et tout cet enseignement des actes nous montre que ce sont des gens qui savaient bien sûr s'adapter, surtout Paul, mais qui en aucun cas, amenuisaient le message du salut.
Il y a, tout à l'heure, Philippe a posé cette question cruciale, comment avoir un contact individuel et collectif avec des âmes qui apparemment n'ont pas soif? Comment les intéresser, entre guillemets, aux choses essentielles qui sont masquées dans la société actuelle? Cela a été rappelé plusieurs fois. Alors, ce passage de Acte 5, et en particulier le verset 32, je crois que c'est quelque chose de très important pour nous. C'est quelle place donnons-nous à l'activité du Saint-Esprit? Le Seigneur a été très clair, on peut le voir dans Jean 14, par exemple, Jean 14, verset... Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Premier passage essentiel, me semble-t-il, et que l'on a vu dans Acte 2, quelle transformation le Saint-Esprit a opéré dans notre vie et opère dans notre vie individuelle et collective. Est-ce que cela se voit ? Alors, je ne parle pas du tout des manifestations charismatiques, c'est absolument pas cela. Ceux qui ont cherché cela vont, et on le voit bien, sont allés vers des illusions, quelque chose qui ne dure pas. Mais il y a quand même là, dans ce passage de Jean 14, quelque chose que le Seigneur nous dit, si le monde ne voit pas et ne connaît pas, bien qu'il le voit en vous. Et puis, le deuxième point que j'aimerais souligner, donc de toujours dans l'enseignement du Seigneur, qui a été très centré sur le Saint-Esprit dans son entretien, plutôt sur ce que le Saint-Esprit ferait dans son entretien avec ses disciples, c'est dans Acte 16, que nous connaissons bien, et au verset 8. « Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement ? Ce n'est pas ce que nous voyons, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le Saint-Esprit qui opère. Alors je crois que nous avons là une activité de prière et une activité de manifestation de la vie spirituelle individuellement et collectivement qui doit être centré sur le fait que l'Esprit Saint opère, il veut opérer. Mais est-ce que c'est un désir de notre... Le passage de Acte 5 est très clair. Et nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné, par l'activité du Saint-Esprit, le dans les croyants. Et puis, passage que l'on n'a pas lu, que l'on trouve dans le verset précédent, donc à la suite de l'interdiction que les apôtres ont eu de prêcher l'Évangile, et puis la prière de reconnaissance dans Acte 4, à partir du verset 23 et jusqu'au verset 31, lorsqu'ils ont été relâchés, et qu'est-ce qui nous est dit ? Au verset 31, et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Alors, je sais bien que nous ne sommes pas dans un temps de réveil, peut-être, mais est-ce que nous le désirons ? Est-ce que nous désirons être dans un temps de réveil ? Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui doit être particulièrement important actuellement dans nos propres vies. On peut constater que ces temps de réveil que l'on peut voir ici et là dans le monde, quand on les regarde un petit peu de près, eh bien c'est quelque chose qui a été désiré par les croyants qui étaient en tout petit nombre au tout début, et puis après le Seigneur a permis que ce temps de réveil se développe parce que il savait bien que seul il ne pouvait rien faire et que c'est par l'activité, l'opération du Saint-Esprit que la parole pouvait trouver écho dans les cœurs.
On arrive un petit peu à la fin de cette journée puisque nos amis de particulier de La Rochelle ont une réunion ce soir, on va pas trop tarder, mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, Peter, l'action du Saint-Esprit, ça me faisait penser à cette prière du serviteur d'Abraham en Genèse 24, qui demandait « Fais-moi faire aujourd'hui une heureuse rencontre ». Appliquée à l'évangélisation, si nous faisons cette prière chaque matin, serions surpris des réponses Ça m'est arrivé une fois d'oser faire la prière, et je peux vous dire que la réponse ne s'est pas fait attendre, l'occasion s'est présentée. On parlait tout à l'heure de saisir les occasions, et dans le passage de Colossiens, il y a cette expression qui me touche beaucoup, c'est « soyez toujours prêts ». Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on n'est pas toujours prêt. Il y a quelques années, un voisin qui, en discutant avec lui, en faisant connaissance, nous dit voilà, j'ai été élevé dans une famille avec plusieurs enfants, un petit dernier, casse-cou. Il m'arrivait plein de d'accidents, mais le petit Jésus m'a gardé. Et alors on s'est retrouvé avec Karine, on s'est regardé, mais on n'a pas eu quoi répondre. Soyez toujours prêts. C'était une occasion pourtant en or. Je pense que si on avait fait la prière, fais-moi aujourd'hui faire une heureuse rencontre, on aurait été prêts. Je pense que effectivement le Saint-Esprit peut nous aider à être prêts. Je vais raconter une autre histoire qui a été racontée par un frère, qui me touche beaucoup par rapport à l'évangélisation. C'est un frère qui était dans connaissait dans son entreprise une femme qui savait qu'elle avait perdu son mari, qu'elle avait perdu un enfant. Et cette femme rayonnait de joie. Je pensais tout à l'heure quand Bernard citait cette phrase de et au self à midi, ce frère le demande à cette collègue, mais pourquoi vous êtes toujours joyeuse? Qu'est-ce qui se passe? Et cette dame a répondu: oh, vous savez, moi c'est simple, mon secret c'est Jésus. Et cette réponse m'a toujours touché, c'est-à-dire que c'est vrai que nous aurions tendance à dire, oh, moi je suis chrétien, moi j'ai la foi, etc. Et pour elle, évangéliser, c'était parler de Jésus. Alors, il me semble que le Saint-Esprit aussi nous conduit à parler de Jésus. Bon, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de parler de Philippe en acte 8 qui a évangélisé, ni de Corneille, mais simplement c'était des instruments qui étaient disponibles dans la main de Dieu. Philippe qui a évangélisé dans un lieu désert pour accepter d'y aller. Il pouvait se poser des questions, mais là aussi le Saint-Esprit lui disait d'y aller. Et puis Corneille, ce témoignage merveilleux qu'il rendait. On a lu ça tout à l'heure, les aumônes et tout le peuple. Alors c'est vraiment des exemples qui nous sont donnés. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à rajouter. Le mot de la fin à quelqu'un.
Chez Corneille, on voit l'engagement de cœur qui produit quelque chose dans son entourage immédiat. Il a des soldats qu'il voit vivre et qui acceptent sa piété, qui adhèrent à sa piété, et qui sont là, utiles aussi dans la manifestation de sa vie de témoignage. Puis ensuite, les choses vont plus loin, et à cause de sa foi et de son engagement personnel, et de son attachement aux valeurs spirituelles et aux dieux des Juifs, auxquels il est attaché de tout son cœur, bien, il est conduit beaucoup plus loin. Il suffit de continuer à lire le chapitre 10 et le chapitre 11 pour voir jusqu'où les choses le mènent. Il est même un instrument pour mettre de l'ordre dans le manque d'intelligence spirituelle après, dans la période de transition de l'apôtre Pierre. Dans le cas de Philippe, eh bien, c'est pareil. C'est un attachement personnel à la personne du Seigneur, qui fait que L'Esprit le prend, le porte là, il y va, il entend la voix de l'Esprit, parce qu'il est disponible. Il s'approche d'un char, c'est bizarre, il était sur un chemin désert, passe quelqu'un, il y va, il entend quelque chose, il sait quoi dire, il annonce Jésus, parce que Jésus remplit son cœur. Vous remarquez que, depuis ce matin, on a trouvé cette réalité comme un noyau commun à tous les cas, un attachement de cœur à Dieu, au Seigneur Jésus. Eh bien, partons avec la réalisation du fait que cet attachement de cœur, c'est quelque chose de primordial sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan d'une assemblée locale et quelquefois au-delà.